ぽかぴぽかぴぽかぴ。
El diálogo que tengo que leer, ¿qué significa la tuya?
Bonsoir, plus de 6000% telle est le chiffre approximatif d'intérêt réalisé par les exploitants des bois en RDC. L'écart entre le prix du bois à la coupe dans les zones forestières de la RDC et le prix d'écoulement sur les marchés est très grand. Greenpeace crie au scandale et à l'escroquerie à l'échelle nationale et internationale. Comment expliquer cet écart entre le prix du bois à la coupe dans les zones forestières de la RDC et le prix d'écoulement sur le marché? Comment faire bénéficier les populations autochtones? D'où viennent ces bois de leurs produits? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois dans cette émission René Mbongo, conseiller politique chargé de forêt à Greenpeace. Florentin Kaigé, il est ancien président de la Fédération des industriels du bois au Congo. Jean-Luc Motokambali, il est député national et membre de la commission environnement, ressources naturelles et tourisme à l'Assemblée nationale. Toutes nos démarches pour contacter et avoir un délégué du ministère de l'environnement ont été vaines. Vous êtes nombreux à réagir au thème de ce soir, comme d'habitude d'ailleurs. C'est le cas de Albert Bakota de Matadi au Bakongo. C'est la mauvaise foi des exploitants forestiers en connivence avec les autorités administratives à Oshé dans les Maïndombe vers 1960 et 1970. Les exploitants forestiers de l'époque contribuaient au développement de la pensée, mais actuellement c'est de l'escroquerie. Philippe Mateka de Kolozi au Katanga. Cette situation prouve à toute évidence qu'il y a beaucoup de commissionnaires dans ce marché du bois au niveau national et international. C'est ce qui explique le déséquilibre dans ce marché. Il est vraiment temps que les populations forestières congolaises puissent bénéficier de fruits de ce marché. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM, mais aussi sur Internet, sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Plus de 6000%, tel est le chiffre approximatif d'intérêt réalisé par les exploitants des bois en RDC. L'écart entre le prix du bois à la coupe dans les zones forestières de la RDC et le prix d'écoulement sur les marchés est très grand, ce qui préjudicie énormément les populations forestières congolaises condamnées à vivre dans la misère pendant que les exploitants s'enrichissent. Greenpeace crie au scandale et à l'escroquerie à l'échelle nationale et internationale. José Deschartoninga nous en dit plus.
Les principales essences de bois exploitées en RDC sont le bois rouge, le bois noir, l'iroko et la promosia. Elles viennent principalement du Bandundu, de l'Équateur et de la province orientale. À la coupe des bois, les exploitants artisanaux achètent une tige de bois rouge à 3000 francs congolais et celle de bois noir à 4000. Revendue au marché de Kinshasa, une tige de bois noir de 15 mètres cubes sciés peut revenir jusqu'à 9 000 $ américains, alors que la même tige d'afromosia de 15 mètres cubes peut revenir, tenez-vous bien, à 14 250 $. Outre mer, au port d'Anvers en Belgique par exemple, Greenpeace rapporte qu'un mètre cube de bois noir scié peut aller jusqu'à 3 472 $. Et pour un arbre de 15 mètres cubes, faites les calculs, 52 080 $. Et pendant ce temps, dans les villages d'où viennent ces bois, les infrastructures sociales de base sont quasi inexistantes.
Merci José Deschartes-Venga pour ce reportage. La réalisation me signale que Florentin Kaigé est en ligne. Monsieur Florentin Kaigé, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes ancien président de la Fédération des industriels du bois au Congo. Après avoir suivi ce reportage, comment vous expliquez ce grand écart des prix?
Madame, à première vue, je dois vous dire que cette démarche-là, cette façon de conclure les choses, surtout qu'il s'agit d'une matière économique, mais ça me paraît très simpliste. Il faut faire la différence entre ce que vous appelez le prix d'achat du bois et de l'exploitation de ce bois-là, parce que il faut faire la distinction entre l'exploitation artisanale et l'exploitation industrielle, et qui se font selon des méthodes et des pratiques qui sont tout à fait différentes. Donc moi je pense que si réellement le bois rapportait ce bénéfice-là, il n'aurait pas été difficile de constater la pluie des exploitants. dans ce secteur. Vous connaissez que ici dans notre pays, nous avons pratiquement l'une des plus grandes réserves forestières du monde et nous n'avons que moins de 22 sociétés qui exploitent dans ce secteur. C'est une preuve que si réellement les choses étaient comme on les présente de façon très simpliste, la réalité aurait dû être autre chose. Parce que les opérateurs économiques, les investisseurs sont comme des mouches. Là, il y a la viande où ça rapporte beaucoup et ils viennent, mais ils n'ont même pas besoin d'être appelés.
Et donc, pour vous, les tableaux que nous appelle José des chartes Menga n'est pas réel, quoi?
Non, c'est-à-dire qu'il est très, à mon sens, très simpliste. C'est-à-dire qu'on prend un prix, on fait un petit calcul, parce que cela répond à une logique qu'on a ici, parce que vous savez qu'il y a de gros enjeux par rapport à notre forêt. Et aujourd'hui, par rapport à ce problème de réchauffement climatique, il y a une manipulation de l'information qui peut se donner selon la vision de cet objectif-là. Mais moi, je crois que je viens de vous donner un exemple très simple. Si les choses étaient réellement comme on l'a dit, et on n'aurait pas besoin, les gens n'iraient pas vers les diamants, ils n'auraient pas vers l'or, ils seraient plus les aller appuyer pour dans l'exploitation forestière.
Vous êtes exploitant forestier, vous faites quel type d'exploitation?
Bon, nous sommes dans la province de Bandundu, plus précisément dans Inongo. Nous exploitons principalement, évidemment, le wingé et que nous fabriquons le parquet qui est exporté à l'extérieur.
C'est une exploitation artisanale ou industrielle?
C'est une exploitation industrielle, madame.
À combien vous achetez ce bois-là, monsieur Kagé?
C'est pas parce que c'est nous-mêmes qui l'exploitons. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes, nous avons des installations, nous avons des équipements, nous avons une concession forestière, et nous coupons nos bois et nous les transportons et nous les transformons au niveau de l'usine.
Il y a cet auditeur de Matadi, Albert Bakota, qui dit ceci: c'est la mauvaise foi des exploitants forestiers en connivence avec les autorités administratives à Oshoué dans les Maïndombé vers 1960 à 1970. Les exploitants forestiers de l'époque contribuent au développement de la contrée, mais actuellement c'est de l'escroquerie. Comment vous répondez à cet auditeur?
Madame, je pense qu'il y a des termes qui sont assez forts. Je dois dire que tous les exploitants ne sont pas des saints. Je suis tout à fait d'accord d'en convenir, mais il ne faut pas non plus exagérer parce que les conditions d'exploitation qu'il y avait hier ne sont pas celles que nous avons aujourd'hui. Et vous savez, tout le monde le sait, et ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas quelque chose que je vais dire qui est inconnu des gens. Tout le monde sait que le coût d'exploitation aujourd'hui au Congo est l'un des plus élevés du monde. Et d'ailleurs, la preuve est que si justement cette exploitation était aussi facile, aussi rentable comme elle est présente, tous les investisseurs viennent se verseraient dans les exploitations forestières. Vous allez voir qu'il y a une carence des exploitants forestiers, même ceux qui viennent ne rentrent pas dans l'exploitation forestière. Vous venez de voir aujourd'hui le boom immobilier qu'il y a ici dans la ville de Kinshasa, mais il n'y a pas le boom forestier parce que tout simplement, cette exploitation n'est pas telle qu'on voudrait la présenter.
Alors, il y a un autre auditeur, Philippe Pacheca de Kolwezi au Katanga, qui dit ceci: cette situation prouve à suffisance qu'il y a beaucoup de commissionnaires dans ce marché du bois au niveau national et international. C'est ce qui explique les déséquilibres dans ce marché. Il est vraiment temps que les populations forestières congolaises puissent bénéficier de prix de ce marché.
Madame, je suis tout à fait d'accord dans certaines acceptations. Qu'il y ait beaucoup de commissionnaires, peut-être il y en a, mais je pense que je suis de ceux qui ont milité pour la création de la Fédération des industriels du bois, parce que l'un des objectifs était que nous avons voulu avoir dans les secteurs des exploitants qui prennent en compte aussi le développement social des milieux dans lesquels ils travaillent. C'est pour cela que nous avons instauré cette fédération dans cet objectif-là. Mais je dois dire aussi que dans les parades de cette exploitation, il y a des choses qui sont évidemment à critiquer, c'est tout à fait normal, mais ne faisons pas de l'exagération, ne faisons pas de l'amalgame, ne mélangeons pas tout le monde dans le même sac, parce qu'il y a des gens qui font un travail tout à fait appréciable. Lorsqu'on est dit qu'on ne fait rien dans ce secteur-là, je vais vous donner tout à fait un petit exemple que je prends tout à fait au hasard. Mm-hmm. Vous savez, l'exploitation forestière, c'est la seule activité qui a pu réaliser, par exemple, 1913 kilomètres de défaites agricoles, vous me le direz, mais qui servent aussi à ces populations. On ne peut pas m'anticiper un seul secteur de notre économie qui a eu à faire à réaliser cette performance. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. Il y a quand même certaines écoles qui ont été conçues, il y a des centres de des choses qui sont faites. Mais c'est tout à fait compréhensible parce que nous n'avons eu moins d'une vingtaine de sociétés dans un espace tout à fait immense, tout à fait normal que cela ne soit pas très visible et que de là, on est à critiquer. Mais il faut aussi que je vous dise que l'exploitation industrielle, madame, dans son ensemble, n'atteint pas les 500 000 mètres cubes par an. Et pourtant, l'exploitation artisanale, aujourd'hui, a des chiffres bien plus élevés. C'est pour vous dire que les marginaux qui sont dans ce secteur prélèvent des quantités beaucoup plus importantes, même que l'exploitation industrielle. Et là, peut-être que des questions peuvent se poser.
Merci, Florentin Kagé. La réalisation me signale que Rémi Ngongo est en ligne. Rémi Ngongo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes conseiller politique chargé des forêts à Greenpeace, voilà. Je crois que vous avez suivi Florentin Saguet par rapport à la première question de notre René Ngongo.
Oui, je vous suis, je n'ai pas suivi Florentin, malheureusement.
Il y a du bruit autour de vous, René Ngongo.
Oui, j'essaie de m'éloigner.
Vous avez une radio à côté de vous?
Non. Oui, là, je travaille.
Allô?
Oui, allô?
Est-ce que vous avez une radio à côté de vous?
Non, non.
Voilà, éloignez-vous du bruit parce que je vous entends difficilement.
Ok, là ça va.
Oui, là ça va. Alors la première question de notre débat, la question principale, c'est comment expliquer cet écart entre les prix du bois à la coupe dans les zones forestières de la RDC et les prix d'écoulement sur le marché que Greenpeace a même décrié. Greenpeace a crié au scandale et à l'escroquerie à l'échelle nationale et internationale.
Oui, je pense que, comme vous le savez, depuis 60 à nos jours, plusieurs organisations, il n'y a pas que Greenpeace, ont dénoncé les pillages des ressources naturelles. Les rapports des panels d'inspection des Nations Unies, des ONG internationales et internationales sont revenus sur cette question. Et je pense que, tout part du fait que l'administration qui doit s'occuper du contrôle ne le fait pas sur le terrain. Il y a tout un problème par rapport à l'exploitation et l'exportation des grumes, comme vous le savez. Ça fait que les grumes sont exportés tels quels, ça fait un manque à gagner pour les pays et surtout qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Et les communautés ne se retrouvent pas parce que il n'y a pas de main d'œuvre. Mais il y a aussi l'épineuse question des taxes. Les taxes ne sont vraiment pas rétrocédées. Ça fait que il y a un problème par rapport à l'impact de l'exploitation forestière dans les zones concernées. Il y a l'insuffisance ou pratiquement le manque de transparence dans les secteurs, ce qui fait que aujourd'hui on peut déplorer ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure, madame.
Oui, René Ngongo, si les taxes ne sont pas rétrocédées ou s'il n'y a pas de transparence dans cette exploitation, est-ce la faute aux exploitants forestiers?
Oui, on ne peut pas tout incriminer sur l'exploitation forestière. C'est comme ça que depuis 2002, le gouvernement congolais, avec l'appui de ses partenaires au développement, s'est investi dans les réformes pour que on puisse améliorer la bonne gouvernance dans les secteurs. Il y a le fait que aujourd'hui la commission Mercuria qui doit travailler sur ces questions de prix justement, c'est que comme cette commission n'est pas opérationnelle, les prix ne changent pas, ne suivent pas ce qui se passe au niveau du marché international. Mais il faudrait aussi, pour être honnête, ne pas tout mettre sur la charge des exploitants, parce que aujourd'hui quand vous comparez les prix, c'est comme s'il n'y a pas de chaîne d'exploitation. J'espère que M. Kagé a dû faire allusion aux nombreuses charges liées à l'exploitation, au transport, et au fait que même si les taxes n'apparaissent pas officiellement, il y a quand même des taxes qui sont payées, et d'où la mauvaise gouvernance qui fait que les communautés bénéficiaires ne profitent pas de ça, et l'État même ne tire pas profit de cette exploitation.
Alors, René Mongoya, l'ingénieur David Mukwela de Kinshasa, qui se demande comment est-ce possible que les exploitants puissent bénéficier jusqu'à 6000% au vu et au su des autorités congolaises en la matière. Est-ce que vous pensez, il vous pose à vous cette question, est-ce que vous pensez qu'il y a manigance entre les exploitants de bois et les autorités congolaises? Est-ce que Greenpeace peut traduire en justice internationale l'exploitant de bois congolais? Si oui, que doit faire la population autochtone?
En fait, il y a plusieurs questions qui me sont posées. Je pense que Greenpeace n'a pas vocation de traduire les entreprises qui sont concernées en justice. Tout ce que nous faisons, c'est lorsque nous avons des informations par rapport à une entreprise, par rapport à une situation que nous trouvons inexplicable, ou qu'on ne peut pas tolérer, nous faisons des rapports. Je crois qu'on a publié à CDC plusieurs rapports qui peuvent éclairer l'autorité sur cette question. Mais je pense qu'il faut aussi nuancer quand on parle de 6000%. C'est comme s'il n'y a pas de charge par rapport à l'exploitation. Donc, les 6000%, je pense qu'il faudrait revoir les calculs par rapport aux intérêts. Donc, c'est ma question. Mais je pense que tout à l'heure, j'ai fait allusion aux réformes qui sont en cours. Nous ne cessons de demander à travers nos mémos au gouvernement, mais aussi aux bailleurs de fonds, de matérialiser ces réformes pour que les promesses soient entendues par rapport aux communautés qui doivent sortir de la pauvreté, par rapport à la relance économique, soient matérialisées à travers ces réformes. Donc notre rôle, c'est de tirer la sonnette d'alarme, quitte à l'État de prendre ses dispositions pour que les taxes qui sont payées soient réellement payées. Aujourd'hui, notre pays a adhéré à l'initiative pour la transparence et je pense que c'est un bon créneau pour que ceux qui payent à l'État publient ce qu'ils payent et l'État a l'obligation de publier ce qu'il reçoit des entreprises. C'est une des solutions pour combattre l'évasion fiscale.
Oui, il a posé une autre question. Hein. Il voudrait savoir si vous pensez qu'il y a manigance entre les exploitants de bois et les autorités congolaises.
C'est vrai que quand on voit les niveaux de pauvreté, quand les entreprises disent qu'elles paient les taxes, il faut seulement se poser la question où vont ces taxes. C'est qu'il y a des personnes qui se mettent plein les poches et au détriment des communautés. Aujourd'hui, la loi parle des 40% des taxes de rétrocession pour les provinces qui sont à l'origine de l'exploitation. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans ces provinces, il n'y a pas de rétrocession. Les questions maintenant de voir où va cet argent, pourquoi il n'y a pas la rétrocession en termes de 25% pour la province et 15% pour les territoires concernés. Donc, c'est des questions que l'auditeur de tout à l'heure se pose et nous ne cessons de nous la poser au niveau des Greenpeace, mais aussi dans l'ensemble de la société civile qui travaille sur les questions de l'exploitation forestière.
Merci, Julien Gungo. Florentin Tagué, est-ce que vous publiez ce que vous payez à l'État congolais?
Madame, je voudrais d'abord féliciter notre compatriote René Ngongo qui me fait l'honneur éventuellement dans ce domaine de la défense évidemment des intérêts des populations locales. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Nous avons des points de vue souvent opposés, mais je l'apprécie parce qu'il est fair-play. Maintenant, je vois qu'il a beaucoup évolué aussi par rapport à son analyse du problème. Et je voudrais ici dire que nous avons, on dit au chef des idées, j'ai eu la lumière, nous avons besoin éventuellement de ce débat pour essayer de faire avancer notre pays. Mais il a bien, je dis ici qu'on s'est réfléchi là-dessus, il a donné un point de vue que je rejoins aussi pour dire ceci, qu'éventuellement les taxes sont payées, mais ce n'est pas de la responsabilité des opérateurs économiques, des exploitants forestiers, de pouvoir contrôler la rétrocession si elle s'est fait et si elle ne s'est fait pas. Le problème de la rétrocession, je crois, madame, elle se pose globalement et il y a un débat là-dessus, vous avez suivi beaucoup, même le débat au niveau du Parlement, et il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là et je crois que d'ici là, des solutions vont être trouvées, mais c'est un effort national. Alors quand vous dites de publier, si nous publions ce que nous payons, je crois que nous avons adhéré à l'objectif, disons, à cette organisation par rapport à la transparence sur la gestion des entreprises. Je vous ai dit que c'est une des raisons pour laquelle nous avons créé la Fédération des industriels du bois pour que ce que nous, nous payons à l'État se fasse dans la transparence et soit connu quoi, de l'opinion. Donc nous pensons qu'il n'y a pas de tout de réticence par rapport à cette politique, mais il est en fait, madame, que c'est un processus, et René Ngongo vient de l'expliquer, c'est un processus vers lequel nous devons évoluer tous dans la responsabilité, pas seulement dans les secteurs forestiers, mais dans tous les secteurs de l'économie de notre pays. Bon, il a révélé un point que je ne voulais pas ici survoler, parce que c'est très important, il a parlé des problèmes de la pauvreté dans les milieux de l'exploitation du bois. Je voudrais dire que ici la pauvreté, elle est générale, et même généralisée dans notre pays. Ce n'est pas seulement dans les secteurs du bois où il y a la pauvreté, mais la pauvreté elle est partout. Les véritables causes de la pauvreté sont connues. Nous devons lutter par rapport à ça. Il y a toutes ces guerres qui se font dans notre pays. Il y a des problèmes de gouvernance, ça c'est vrai, mais des efforts sont en train d'être faits. Il faut absolument, il y a l'exploitation de nos richesses. Il a parlé de la valeur ajoutée, je crois. Nous, aujourd'hui, au niveau de la Fédération des industriels du bois, c'est des efforts qui ont été faits pour que le bois qui est produit dans notre pays soit transformé dans ce pays pour donner de la valeur ajoutée. Mais il faut aussi que, au niveau de politique, au niveau de l'organisation de notre économie, que toutes les structures soient mises en place pour que les industries s'installent. Vous savez bien, madame, que pour installer l'industrie, une des premières ressources à laquelle on a fait appel, c'est l'énergie. Vous connaissez les problèmes de l'énergie électrique dans notre pays, et c'est parfois aussi des éléments qui font que les industries n'atterrissent pas suffisamment dans notre pays. Donc, il faut prendre tous ces éléments en compte, il ne faut pas les séparer, il ne faut pas segmenter la vie économique, et je crois qu'il a tout à fait raison pour certaines choses qu'il a dit, je le rejoins, mais c'est un combat d'ensemble pour que nous arrivions à aider ce pays à faire ce qui peut se développer, et ce n'est qu'en développant notre pays que nous-mêmes aussi qui avons des investissements ici dans ce pays, nous voulons les sécuriser.
Merci Florentin Caguet, nous attendons toujours l'honorable Jean-Luc Moutokambali, j'espère qu'il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Comment s'est fait le travail de la coupe du bois par les exploitants artisanaux? On écoute les témoignages d'un agent travaillant pour les comptes d'un exploitant forestier.
Et pour gagner là vraiment, à ma chambre.
Bon, pour gagner. Pour ça, pour gagner, tu mets tout ça là. Tu vas la traverser, tu vas partir. Malgré tout, tu vas partir, tu vas m'aider. Alors, tu vas me faire ça. Tu vas me faire ça, tu vas me faire ça. Tu vas me faire ça, tu vas me faire ça. Tu vas me faire ça, tu vas me faire ça. Tu vas me faire ça, $500. Bominga, ah moi qui n'a pas na oubli quand même, zan maraton à Congo la douce.
Si on va couler zan maraton, est-ce que va bénéficier vraiment à manger?
Ah rien, pas à bénéficier. Pour bénéficier peut-être zan mario quand il a mis sous boyokani, quand on a 400 pieds, je peux tirer mon soubi chasser à fille, dix chasser à mou, à mon soeur 30 000. Voilà, boyom autodi machani. Vous êtes belle. Asi ça fait ben yongo teo teo kanabo pesa teo pesa zan 200 000. Son aïe, quand il est kiné libéla.
On a voulu de suivre cet exploitant, cet agent qui travaille pour le compte de l'exploitant forestier. Il travaille durement pour gagner $200 à $300 et au risque même de perdre leur vie. René Ngongo, comment vous réagissez à ce témoignage?
Oui, c'est en fait un témoignage qui retrace la situation qui se passe dans l'exploitation industrielle. Aussi bien artisanal. Vous voyez, quand vous comparez les prix d'achat, je pense que sur base de ça que vous avez évoqué les taux d'intérêt en question, parce que nous, on a connu des cas où un exploitant industriel coupe des arbres autour du village et paye pour ça $10 par pied d'afro mondial. C'est vraiment un scandale par rapport à la paupérisation de ces communautés. Et je reviens à l'épineuse question de la pauvreté, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on a mis en place ces réformes, c'était dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, parce que vous rappelez que déjà vers 2000, il était question de la DCRP, lutte contre la pauvreté. Et aujourd'hui, on constate que pratiquement 8 ans de réforme, on n'a pas résolu ces questions. On est en train de mettre en place un modèle de cahier de charge qui n'est pas encore exécuté, et en lieu et place, on trouve ce genre de contrat avec les communautés. Il a parlé de quelques sacs ou sachets de sucre. Nous avons des cas où des exploitants industriels donnent quelques barres de savon aux communautés, c'est pas avec ça qu'on pourra résoudre la pauvreté des communautés, parce que en même temps, on ne les dit pas, ces communautés dépendent étroitement de la ressource. Lorsque cette ressource est vidée dans les environs, il y a des conséquences sur le plan de leur alimentation. D'abord, le bruit des machines éloigne les gibiers, et même quand il n'y a plus de gibiers, la ressource comme le chenille qui est disponible dans les milieux commence à se raréfier parce que les arbres à chenille sont aussi prisés par les exploitants forestiers et industriels. Donc, ça pose vraiment un problème réel de régulation de ce secteur. J'ai parlé de l'absence de contrôle, de manque de transparence et puis l'insuffisance des moyens pour l'administration qui est censée contrôler tous ces éléments sur le terrain.
René Mungo, il existe quand même un code forestier dans ces pays. Est-ce qu'il est appliqué?
Justement, si vous suivez l'évolution du secteur depuis un temps, nous avons déjà l'année dernière envoyé plusieurs signaux à l'endroit des bailleurs et du gouvernement pour qu'on matérialise ces réformes sur le terrain. C'est vrai que nous devons à l'actif du gouvernement actuel la finalisation de beaucoup de textes qui étaient en souffrance, mais sur le terrain, il y a encore un grand décalage entre les textes et la réalité sur le terrain. Les communautés attendent toujours un début de mise en œuvre de ces réformes et j'espère que, à cause des cris d'alarme et des communautés et de la société civile, les choses vont bouger dans le bon sens.
Merci René Mungo, Florentin Sagué. Votre réaction par rapport au témoignage que nous avons suivi tout à l'heure?
Madame, j'ai dit que parfois ça fait des cas, des exemples, des cas qu'il ne faut pas généraliser. Mais je crois que dans son ensemble, les choses ne se passent pas tout à fait comme ça. René Mungo vient d'évoquer le problème de la pauvreté, le problème de cette bourse, soi-disant certains exploitants. D'abord, je vais dire depuis ma bord que c'est rare qu'une exploitation forestière se fasse tout à fait dans le rayon d'un village, ils se font bien loin de cela, mais il doit savoir aussi, Ningongo, que nous ne devons pas, quand nous abordons ces problèmes, faire de la démagogie, parce que le développement a un prix. Il y a un prix à payer, madame, pour le développement. Vous voyez, aujourd'hui, les pays du Nord sont en train de se battre par rapport à tous ces problèmes de réchauffement climatique, et ainsi de suite, c'est parce que c'est la contrainte, c'est les conséquences du développement. Donc le développement a son bon côté, mais aussi son côté à déplorer, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences. Donc c'est un choix à faire. Donc ou bien nous voulons continuer à nous nourrir des chenilles et des gibiers de la forêt, mais ou alors, parce que quand on veut parler du développement par rapport à l'exploitation, on ne doit pas se limiter seulement sous l'espace où ces richesses sont exploitées, mais vous voyez aussi dans l'ensemble. Il y a ici, vous voyez dans la ville de Kinshasa, le nombre des emplois qui sont créés, là où il y a ces activités, ces industries, il y a toute une activité, il y a toute une synergie qui se crée autour de cette activité. Le problème du transport, c'est que M. René Ngong n'a pas dit que dans la plupart des cas et dans plusieurs zones où ces exploitations se font, ce sont des zones qui sont complètement enclavées. Et il n'y a que ces activités-là qui permettent à ces populations, par exemple, d'évacuer leur production, et ainsi de suite. C'est là aussi que vous avez eu à déplorer par exemple certains accidents, c'est parce que ces populations n'ont pas d'autres moyens aujourd'hui pour pouvoir se déplacer que d'escalader, de monter dans toutes ces embarcations de façon parfois tout à fait exagérée, de parfois en prenant des tonnages qui sont tout à fait hors normes. Donc c'est une chose qu'il ne faut pas voir tout simplement dans leur côté négatif, il faut voir aussi faire part des choses en voyant aussi le bon côté de cette exploitation, parce que nous connaissons des endroits où cette exploitation s'est arrêtée, mais où les populations sont en train de réclamer de voir ces unités revenir, parce que tout simplement, ils ont vu que la vie est en train de se mourir de ce côté-là.
Florentin, c'est-à-dire que vous appliquez le code forestier vous...
Madame, le code forestier, c'est une législation de même longueur. Nous avons eu beaucoup de débats là-dessus. C'est une législation qui a été mise en place, qui n'a pas tenu compte d'un certain nombre de considérations. Il sait très bien, M. René Ngongo, que parmi les premiers problèmes qui devaient aujourd'hui permettre la bonne application de ce code, c'était le zonage. Il sait très bien que le zonage, tel qu'il a été prévu dans ce code pour se réaliser dans notre pays, il faut peut-être plus de 20 ans. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites dans notre pays dans une certaine précipitation, parce que les gens avaient leur plan derrière la tête et qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas réalistes. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec les mesures d'application, le ministère fait un ensemble d'efforts avec aussi la contribution des organisations et dans lesquelles participe René Ngongo, de façon à ce que progressivement nous arrivions à l'application complète de toutes ces législations.
Il n'y a pas que Greenpeace qui parle du manque de contrôle dans l'exploitation forestière en RDC. Il y a plusieurs observateurs qui reviennent sur ça. Ils pensent qu'il y a un certain désordre dans ces secteurs, dans ce pays en RDC.
Madame, je crois que c'est aussi des choses qu'on voudrait un peu exagérer. Je crois tout à fait le Ngongo tout à l'heure en parlant, il met quand même du bémol. Ce n'est pas un désordre complet. Autrement, les choses ne se passeraient pas de cette manière. Vous savez que dans beaucoup de secteurs de notre économie, même des secteurs miniers, il y a beaucoup de choses qui ont été reprochées. Mais c'est dû au fait qu'il y a une forte pauvreté dans notre pays. Et ce qui paye d'abord la faiblesse de certaines administrations, mais aussi les abus aussi qui se commettent de part et d'autre. C'est des choses qu'il faut partager, des responsabilités partagées, mais je crois que c'est tout de même un des secteurs qui contribue réellement à l'effort du développement de ce pays. Nous devons le reconnaître parce que aujourd'hui, comme je viens de vous dire, il y a certaines zones qui sont complètement enclavées et que si des exploitations ne se faisaient pas dans ces zones-là, la vie cesserait d'être là. Et là, dans ces zones-là, parfois, ces exploitants se situent même à l'État. Donc il faut que ces choses-là soient connues. Moi, je crois qu'il faut regarder toute cette exploitation, pas seulement comme un borgne avec un seul œil, il faut le voir avec des yeux. Et de cette manière-là, on peut faire des choses avec un peu plus d'objectivité. Je crois qu'il y a beaucoup d'activités économiques qui se passent dans notre pays pour lesquelles on a des choses à réduire, mais nous devons savoir que nous sommes un pays en développement qui a aussi ses faiblesses, mais aussi ses points forts.
Merci pour Laurentin Kagué. La réalisation me signale que l'honorable Jean-Luc Mouto Kambali est en ligne. Bonsoir, honorable.
Oui, bonsoir, madame la journaliste.
Vous êtes député national et membre de la Commission environnement, ressources naturelles et tourisme à l'Assemblée nationale. J'imagine que vous êtes au courant des problèmes qui se posent entre les exploitants forestiers et les populations autochtones. Est-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous avez essayé de faire ou qu'est-ce qu'ils ont vu pour régler ce problème?
Tout à fait, madame. Ces problèmes qui sont, je dirais, des problèmes très récurrents, normalement devrait être solutionné par le gouvernement de la République, mais comme vous le savez, à un moment donné, notre population qui est encore dans l'apprentissage de la démocratie parfois est obligée de saisir l'Assemblée nationale et naturellement quand le courrier arrive, c'est-à-dire des mémorandums, des revendications, des pétitions arrive sur la table du président de l'Assemblée nationale, à son tour, le président transfère à la commission. Il est clair que ce genre de revendications sont au niveau de la commission et nous essayons de voir ce qui est de nature à constituer ou à nous permettre d'améliorer la législation dans ce sens et sinon, pour le reste, des difficultés ou des problèmes, nous essayons de rencontrer les ministères ou les services de l'État spécialisés dans le cadre du contrôle parlementaire pour essayer de résoudre les problèmes qui se posent. Mais il faut dire que les revendications de la population vont dans ce sens que ils se rendent compte ou les populations constatent que les forêts sont les leurs en tant que citoyen du pays, et à un moment donné, ces forêts connaissaient quel est le rôle économique et le jeu pour ces populations pour leur survie, et à un moment donné, elles estiment qu'elles devaient bénéficier des retombées positives en termes du social, de l'économie, même pour améliorer leur vécu quotidien. Et en tout cas, je crois que la situation est loin d'être reluisante. Et nous croyons que, en tant que parlementaires, c'est encore un défi que nous devons relever, que ce soit dans le cadre d'améliorer la gouvernance du côté du gouvernement des services de l'État spécialisé et même de la législation.
On aura déjà cet auditeur de Bounéonitouri, Mike, qui dit ceci. Les autorités congolaises sont responsables de cette mauvaise exploitation forestière parce qu'elles ne font aucun effort pour décompter une fois pour toutes cette situation car elles y tirent d'énormes profits. Comment vous répondez à cet auditeur?
Écoutez, madame, je crois que c'est un point de vue. Bon, peut-être c'est un cas isolé, mais je crois que de manière général, c'est vrai que les autorités congolaises que nous sommes, que ce soit les parlementaires, le gouvernement, nous sommes responsables de tout ce qui ne marche pas au niveau de notre population. Mais je crois que notre compatriote pourrait peut-être atténuer son jugement dans la mesure où le pays a un problème d'administration, il y a des réformes qui doivent être menées. Et je crois qu'à notre niveau, nous essayons de faire ce que nous pouvons pour que le gouvernement améliore la gouvernance dans ce secteur et surtout la transparence et que les informations sur l'exploitation de toutes les ressources nationales soient disponibilisées au niveau de la communauté, aussi bien locale, nationale qu'internationale, pour que la population sache exactement qu'est-ce qui quitte. Qu'est-ce qui sort du pays et quelles sont les retombées en termes d'argent et pour participer au développement de ces communautés. Donc, il y a effectivement des efforts à fournir à ce niveau-là et je crois que tout le monde est interpellé dans ce sens.
Et au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez déjà envisagé d'amender le code forestier pour l'adapter au contexte actuel?
Ben écoutez, madame, je crois que ce qui se pose au niveau de la question des forêts, c'est pas une question de législation au sens strict. Je crois qu'il se pose au fait un problème d'application du code. Parce que si vous regardez bien le code forestier tel qu'il a été adopté et promulgué en 2002 ou en 2003, c'est un bon code. Et il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui sont prévues de telle manière à améliorer cette gouvernance. Il est prévu que, par exemple, avant d'accepter des projets forestiers, il faut faire des études d'impact environnemental, il faut tenir compte des cahiers de charges des populations riveraines et des populations affectées par le projet. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont prévues dans ce code qui doivent absolument être appliqué pour que la population puisse trouver son compte dans toutes ces exploitations et même le pays tout entier, parce que il faut dire que cette exploitation, jusque-là, d'après les statistiques disponibles, en tout cas, l'exploitation ne profite pas encore à ce pays parce que les trésors publics ne bénéficient pas manifestement de toutes ces ressources qui sont exportées. Donc, il y a un effort à fournir au niveau de la traçabilité de l'exploitation forestière en RDC comme toutes les matières premières ici au Congo.
Merci, honorable Jean-Luc Motoka Mbali. Comment faire bénéficier les populations autochtones d'où viennent ces bois de leurs produits? C'est la deuxième partie de notre émission pour Cyril Adebou, coordonnateur de l'ONG Océan basé à Kisangani. Il estime que deux mécanismes sont mis en place à ce sujet. Il s'agit d'abord de l'établissement d'un cahier de charges et la retenue à la source des taxes au profit de l'entité où le bois a été exploité. On écoute Cyril Adebou, coordonnateur de l'ONG Océan, au téléphone de Samuel Pachat.
Il y a deux mécanismes qui sont prévus. Le premier mécanisme, c'est à travers le cahier de charges. Généralement, la loi prévoit que lorsqu'un exploitant a déjà réussi une allocation, il est obligé d'aller vers les ayants droit de la contrée pour discuter le cahier de charges. Et selon le modèle du cahier de charges, il est mis en place un mécanisme pour appuyer les communautés en termes de services sociaux de base, les écoles, les centres de santé, etc. Deuxième mécanisme, c'est à travers la rétrocession ou la retenue de taxes. Il y a un certain nombre de taxes qui doivent revenir à la province et à l'entité où on a exploité le bois. Et c'est en ce moment, à raison de 15% de ces retombées, de ces taxes, qu'on peut faire participer les communautés aux investissements communautaires.
Alors, Janine Gongo, en plus des propositions des Cyril de l'ONG Océan, y a-t-il d'autres mécanismes pour finalement faire bénéficier les autochtones de leurs produits?
Oui, je voudrais y arriver, mais madame, permettez-moi de revenir ce qu'a dit le président Laurent Tekage par rapport au développement, que le développement a un prix. Justement, c'est ça le paradoxe. Si on pouvait voir ce développement malgré l'exploitation, je pouvais comprendre cette logique. Aujourd'hui, quand vous allez dans ces milieux, malheureusement, c'est pas des cas isolés, c'est dans l'ensemble des sites qui sont exploités, vous trouvez des écoles qui n'ont pas de bons. Vous trouvez, même le quand on parle du transport, c'est quel type de transport? Le président Kaye a parlé de naufrages, c'est des centaines de personnes qui sont transportées sur des grimiers au-dessus des grimes. C'est vraiment, au moment où on est en train de fêter les cinquantenaires, c'est quelque chose d'inadmissible dans notre pays. Donc, si c'était pour un développement, on pouvait comprendre cette logique, mais à qui profite l'exploitation? J'aimerais savoir pour l'année 2009, quelle a été la contribution du secteur forestier au budget national. C'est infime, surtout qu'il y a eu encore des exonérations pour aider par rapport à la crise. Je pense que Cyril a abordé des aspects, mais moi, quand je reviens sur les cahiers de charges, je suis d'accord avec M. Florenté quand il dit que l'exploitant ne doit pas se restituer à l'État. L'État doit assumer ses responsabilités. Et ces cahiers de charges ont l'inconvénient de créer une dépendance vis-à-vis des exploitants qui, du reste, vont partir aussitôt la ressource terminée dans les milieux. Aujourd'hui, il y a des ouvertures qui sont là avec tous les débats sur le changement climatique, les rôles de nos forêts. Il faudrait que de plus en plus l'État puisse envisager la logique de la préservation de ces blocs forestiers intacts qui peuvent nous apporter plus en termes de retombées des règles. Aujourd'hui, il y a une logique d'appuyer l'effort de conservation. Je pense que ça, c'est un axe qu'il ne faut pas oublier, évidemment. Je pense qu'il y a les aspects des forêts des communautés locales où on donne dans la loi actuelle, dans les codes forestiers, la possibilité à ces communautés de pouvoir exploiter durablement leurs forêts et de pouvoir en tirer profit pour combattre la pauvreté et pour gérer effectivement et durablement la ressource.
Merci René Gongo, je considère ça aussi comme votre conclusion parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Florentin Kage, est-ce que la population bénéficie de cette exploitation? À qui profite l'exploitation, comme l'a dit René Gongo? Allô? Je crois qu'on a un petit problème de ligne avec Florentin Kage. Je vais prendre quelques réactions des auditeurs rapidement. Adrien Lobakoué du Kananga au Kasso Occidental, pour faire bénéficier la population autochtone de leurs droits, il faut revoir le code forestier et celui d'investissement. Jean-Pierre Mutombo dit qui s'en gagne en province orientale. La politique de notre pays ne favorise pas les autochtones les bénéficier de cette production forestière et c'est là à cause de la non-application des lois et conventions en vigueur. Robert Baume et Bouka, pour faire bénéficier les populations de la coupe de bois, les exploitants forestiers doivent réellement répondre à leurs désidérata de développement, sinon ces exploitations seraient qualifiées des capitalistes à l'avantage des uns et au grand détriment des autres. Honorable Motokambali, comment vous réagissez aux réactions des auditeurs?
Écoutez, madame, je crois que nos compatriotes ont raison et toutes les solutions que ces compatriotes avancent, je crois, si elles sont prises en compte par les instances gouvernementales chargées de la mise en œuvre du code forestier, je crois que ça pourrait résoudre le problème. Peut-être que ce que je peux rajouter à ces opinions ou à ces observations de mes compatriotes,
c'est que
effectivement, les autorités compétentes devraient appliquer, devraient s'impliquer plus sur le terrain pour s'assurer que les exploitants respectent les cahiers de charges qu'ils ont négociés avec les communautés riveraines, les communautés bénéficiaires. Et en plus, Peut-être que les ONG qui sont des spécialistes dans le domaine de préservation des forêts pourraient aussi permettre à la population de mieux s'organiser en vue de négocier des projets ou d'élaborer des projets pour qu'elle puisse bénéficier de retombées du processus REG, parce que ces forêts jouent un rôle capital dans l'équilibre climatique dont le monde entier a besoin.
Merci, honorable Jean-Luc Moto-Kambali. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net et diffusion demain à 14h15 heure de Kinshasa. Radio Okapi, Dialogue entre Congolais, recevra le vendredi 25 juin 2010 l'ambassadeur de la Belgique en RDC, Dominique Stroul, avec qui nous parlerons de la diplomatie et des relations RDC-Belgique 50 ans après. Vous pouvez déjà nous envoyer vos réactions et questions aux adresses suivantes par internet dec@radiookapi.net et ou par SMS au 081-051-58-78. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.